Le oui a besoin du débat pour gagner.
Mais le seul truc qui t'intéresse, c'est toi, toi et toi, tes études, ta carrière, ton poste ministère, la con.
Nous sommes une démocratie, c'est le peuple qui va décider.
C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Be you, be proud of you, because you can be.
Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris.
Do what we want.
Garantie sans candidat, mais avec des invités qui ont des idées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent. Allez, donnez l'exemple.
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
C'est un peu comme un amour déçu, une fantastique histoire d'amour démarrée il y a 60 ans entre 6 pays à l'époque. Il s'agissait de mettre en commun le charbon et l'acier et d'éviter la guerre, plus jamais ça. Nous étions alors en 1954. 60 ans après le traité de Rome, notre histoire d'amour avec l'Europe est devenue un peu compliquée. Mais bon, ce n'est pas notre faute, bien sûr, c'est de la sienne. Hein. Le classique d'un couple en plein divorce. Ce sont finalement les Anglais qui, comme à leur habitude, auront tiré les premiers en votant en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Mais la question dans ce divorce qu'on voudrait négocier à l'amiable, c'est bah, que fait-on des enfants? Que fait-on de tous ces jeunes qui ont vécu l'expérience de l'Europe à travers un Erasmus, un voyage ou autre? Ces jeunes Européens qui savent ce qu'ils doivent à l'Europe, 60 ans de paix, 60 ans de développement, 60 ans de multilinguisme aussi. Des enfants qui, alors que leurs parents sont en plein divorce, font ce qu'ils peuvent pour sauver les meubles. Alors les enfants, si votre patrie c'est l'Europe, c'est plus que jamais le moment de le montrer.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Vous n'avez pas le monopole du cœur, mais vous écoutez Place Publique, l'émission qui parle des enjeux de l'élection présidentielle. Ce soir au programme, on parle de l'Europe, je l'ai dit, de son avenir ou de sa fin. Après tout, aujourd'hui, tout est devenu possible. Avec nous ce soir pour en parler, deux invités. Jennifer Richard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chroniqueuse pour Acropolis,
ouais,
et puis
ça.
Je le précise, diplômée d'un master en droit européen. Et Théo Verdier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, quant à vous, vice-président des Jeunes Européens. Avec moi aussi, Leslie, en studio de la rédaction de Radio Campus Paris, anciennement Radio Campus Orléans.
Oui, voilà, exactement.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent là-bas, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Et puis, bien évidemment, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur la place publique. L'Union Européenne, c'est 28 États membres, 24 langues, 510 millions d'habitants. Hein. Je me suis dit que ça ferait bien de commencer par quelques chiffres. Première question que j'aimerais vous poser, que j'aimerais poser à nos deux invités. Quelle est la situation de l'Europe aujourd'hui? Alors je vous propose trois choix, si vous le voulez bien. Trois choix, soit vous dites que l'Europe est en forme, premièrement, soit elle est mal engagée, deuxièmement, soit elle est sur le déclin, troisièmement. Quel choix vous prendriez? Je me tourne peut-être vers vous.
D'accord. Pour moi, je dirais le choix numéro 2. Donc, plutôt mal engagé en ce moment. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vont. Sur le déclin, je ne pense pas. J'espère pas, surtout. Même s'il y a eu le Brexit. Mais je dirais mal engagé.
Mal engagé. Je me tourne vers vous, Théo Verdier. Plutôt en forme, mal engagé ou sur le déclin?
Alors, je vais prendre un autre mot. Pour moi, elle est à refondre. L'Europe, elle est à un tournant et le Brexit le signifie bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet qui n'est pas sur le déclin, mais qui demande d'être redéfini. L'Europe des traités, elle s'essouffle et aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau projet. Et ce nouveau projet, il passe par une refonte de notre Union européenne.
Mmh. Alors, vient de nous rejoindre à l'instant dans le studio Kevin Versin. Kevin Versin, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, le temps que vous vous rapprochiez du micro. Vous êtes le président de la critique de la raison européenne à Sciences Po Paris. Alors, la question que je posais à nos trois invités en introduction, est-ce que vous diriez, quant à vous, que l'Europe est plutôt en forme, mal engagée ou sur le déclin?
En forme, je ne vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait considérer la construction européenne actuelle en forme. Après le départ d'un de ses plus gros États membres l'année dernière, après la montée de tous les partis eurocritiques dans à peu près tous les pays de l'Union européenne, après les différentes crises qu'elle a traversées, je ne vois absolument pas en quoi on pourrait la considérer en forme. Sur le déclin, probablement, je ne sais pas si sa mort est pour demain, mais en tout cas, je pense effectivement que l'actuelle Union européenne est bien mal engagée quant à son devenir.
Et du coup, en fait, il y a deux semaines, l'Europe fêtait ses 60 ans du traité de Rome. Est-ce que vous avez participé, vous trois, à ces événements, à ces festivités? Et dans quel état d'esprit peut-on encore actuellement fêter l'Europe?
Alors, le traité de Rome, c'est l'idée, tu l'as dit, c'est l'idée de la paix perpétuelle sur le continent, mais c'est aussi l'idée de faire tomber les barrières en Europe. faire tomber les barrières entre les États, mais surtout unir les hommes. Et donc nous, on l'a fêté, mais avec une joie immense, parce que c'est l'accomplissement d'un projet de paix sur le continent, mais c'est aussi la croisée des chemins, comme je le disais, pour aller plus loin dans l'Union. C'est ce qu'ont dit les chefs d'État, avec l'idée d'une intégration différenciée, du fait que chacun puisse aller à son rythme dans l'Union européenne, ou en tout cas que certains États puissent prendre le lead. Et ainsi, nous, du coup, on a produit une nouvelle constitution, une constitution citoyenne pour l'Europe, parce qu'on avait envie de marquer le coup, et de dire avec des citoyens de 38 pays du continent qu'aujourd'hui, il faut remettre à plat le projet européen et lui donner une nouvelle base.
Donc pour vous, les 60 ans, c'était plutôt une fête pour vous, Jennifer ?
Pareil, une fête aussi. C'est quand même un symbole assez important. 60 ans d'union entre plusieurs États membres, ça s'est augmenté au fur et à mesure.
On est à 28 maintenant. Bah,
on est 28 bientôt, 27. 27. Mais vraiment, c'est vraiment un symbole fort parce que malgré la situation actuelle de l'Union qu'on peut critiquer, qu'on peut estimer être sur le déclin, pas en forme ou quoi que ce soit, malgré tout, c'est quand même 60 ans où on a été ensemble, 60 ans de paix. Et ça, il faut quand même le souligner, surtout dans un contexte mondial où il y a des conflits, où il y a des montées d'extrêmes, etc. Donc oui, c'est une bonne chose. Les 60 ans, c'était un beau symbole. Ça prouve qu'en Europe, on peut faire la paix pendant 60 ans.
Kevin Versin, je vous vois hausser les sourcils derrière le micro.
Oui, les 60 ans du traité de Rome, pour moi, c'est plus un non-événement. Bon, j'entends la litanie habituelle, c'est l'union entre les hommes, l'union de la paix. Quand même peut-être rappeler juste dans les circonstances historiques où la construction européenne est née et qu'elle est née de la guerre froide. C'est surtout pour faire face à l'ennemi soviétique et pour répondre aux contraintes de nos alliés américains que nous avons décidé de lancer le projet européen. Donc sa dimension de paix, soit, mais je pense qu'elle est quand même nettement relativisée. Quant à l'union entre les hommes, le traité de Rome, c'est pas tellement l'union entre les hommes, c'est davantage l'union entre les marchés du continent. Et je tiens à rappeler que lorsqu'il y a eu le référendum en 2005, les principales dispositions qui ont été rejetées par les Français par référendum, c'était les dispositions économiques et sociales, c'est-à-dire celles qui datent du traité de Rome. Donc ça montre bien effectivement que je ne pense pas que les peuples du continent, lorsqu'ils se prononcent, approuvent l'union entre les marchés qui a été le traité de Rome. Mais bon.
Oui, j'entends bien ce que vous dites. Ah, si je devais vous demander un projet qui vous a peut-être déçu, enthousiasmé dans les 5 dernières années, un projet ou une déclaration politique européenne que vous auriez retenu particulièrement, vous citeriez laquelle ?
C'est-à-dire un projet, c'est-à-dire un événement au sein de l'Union européenne qui m'aurait
par
particulièrement
exemple,
déçu.
Ah, déçu ou enthousiasmé, hein, je vous ai laissé le choix.
Enthousiasmé, je peux même pas vous dire que pour des raisons d'opinion politique personnelle, je ne peux même pas vous dire que le Brexit m'a enthousiasmé, puisque je pense qu'il a eu lieu pour toutes les pires raisons pour lesquelles il pouvait avoir lieu. Après, des déceptions, oui, les dernières décisions de l'Union européenne m'ont causé beaucoup. Je pense au cas grec, je pense au traitement des peuples du sud du continent, je pense au non-respect du rejet par le peuple français du TCE en 2005. Donc j'ai très peu de raisons d'avoir été enthousiasmé par l'actuelle construction européenne.
Mmh. C'est le bingo des anti-européens avec tous les mots-clés qui vont bien. Donc reprenons dans l'ordre. Alors le TCE, on peut aussi dire que le traité de Lisbonne était dans le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy, que les Français ont voté. Et pour répondre à ta question, moi, quelque chose qui m'enthousiasme, c'est que l'Union, elle est en train de se diriger vers une chose incroyable, qui est l'idée de la mobilité internationale universelle. Qui est l'idée que chaque jeune du continent puisse bénéficier d'une expérience à l'étranger pour découvrir le monde, apprendre une nouvelle langue, s'ouvrir à une nouvelle culture. C'est un plus qui joue sur la tolérance, c'est aussi un plus professionnel pour tous ces jeunes. Et donc aujourd'hui, on a un Erasmus des étudiants qui fonctionne, on a un Erasmus du volontariat qui est en pleine croissance, et il faut travailler sur l'Erasmus professionnel, donc notamment dans le domaine de l'apprentissage, pour pouvoir un Erasmus universel.
Sly, t'es ouverti, il n'y a rien qui vous a déçu dans cette Union européenne sur les dernières années ?
Si, évidemment. Alors, par exemple, on parlait du cas grec, mais c'est super intéressant. Donc, effectivement, on peut dire, en tout cas, qu'il y a eu une imposition de politique au gouvernement grec sur la dimension économique. Sauf qu'en réalité, les problèmes qu'ont l'euro aujourd'hui, les problèmes de gouvernance, c'est de négocier derrière des portes closes, en une nuit, sur 1 contre 27. Sauf que cette logique-là, évidemment, il faut la casser, mais pas pour sortir de l'euro, ce qui serait une bêtise, mais plutôt pour dire qu'il faut plus de politique dans l'Union, et donc pour l'euro par exemple, on pourrait proposer un parlement de la zone euro qui permettrait d'avoir ces négociations et cette gestion politique, non pas derrière des portes closes, mais avec les représentants élus des citoyens.
C'est plus un problème de méthode, d'institution, d'organisation, si je vous comprends bien.
C'est un problème d'organisation, c'est un problème de comment on pense la démocratie européenne. Évidemment aujourd'hui, si on ne la change pas, elle a vocation à couler. On est absolument d'accord. Sauf que c'est faire le choix de la lâcheté, de dire tout de suite qu'il faut la quitter, alors que ce projet fait tomber les barrières en Europe. Et donc, effectivement, il faut le modifier, il faut le politiser, mais au niveau européen, pour que les représentants qu'on a élus pour le niveau européen puissent décider en toute transparence.
Jennifer Richard, peut-être, alors je rebalance du côté positif, une chose qui vous a particulièrement enthousiasmé dans les dernières années, disons dans les 5 dernières années, à propos de l'Union européenne.
J'ai bien apprécié sur la COP21 l'union un peu qu'il y a eu au niveau européen sur ce dossier-là. C'était quand même un signal fort et l'Union européenne a quand même eu un rôle assez important sur cette question d'environnement. L'Union européenne fait beaucoup de choses, à mon sens, sur la question de l'environnement.
Et quelque chose qui vous aurait déçu, plutôt ?
Et quelque chose qui m'aurait déçu, ben, le Brexit.
Le Brexit, c'était quelque chose qui était attendu pour vous, ça, le Brexit. J'entendais que vous disiez il y a juste un instant, Kevin Versin, bah, en fait, c'était quand même populiste, c'était quand même un peu... c'était quand même quelque chose d'un peu dramatique, quelque part.
Alors, je vais vous répondre très franchement, ça a été une surprise, le Brexit. Je ne pensais pas que le peuple britannique allait voter à la sortie. Jusqu'à la dernière minute, je pensais, bon, pour différentes raisons, soit pour maintenir l'unité du pays du fait du cas écossais ou irlandais, les gens vont avoir peur et les gens ne voteront contre le Brexit. Donc, ça a été une immense surprise. Après, comme je vous disais, personnellement, ça n'a pas été une décision qui m'a satisfait, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas pour qu'on sorte de l'Union européenne pour mener des politiques encore plus libérales que celles qui sont imposées par l'Union européenne actuelle. Je ne suis pas pour qu'on en sorte pour qu'on marginalise et pour qu'on exclue les étrangers. Donc pour moi, le Brexit, bon certes le peuple britannique a fait un choix souverain qu'il faut respecter, mais j'estime qu'il a été fait pour toutes les plus mauvaises raisons possibles, en tout cas à titre personnel.
Mais si je vous comprends bien, pour vous le problème avec l'Union européenne, hein, puisqu'on a déjà entamé le chapitre, c'est plutôt la manière dont les politiques économiques sont menées, c'est les orientations qui y sont données.
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement ce que vous mentionnez, je suis en désaccord complet avec les politiques économiques et sociales qui sont conduites, ou plutôt qui ne sont pas conduites pour les dernières au niveau européen. Et ensuite, je pense malgré tout qu'il y a un problème de respect de la souveraineté des différents peuples. J'entendais mon homologue à côté de moi qui parlait de démocratie européenne. En tant que tel, il n'y a pas de démocratie européenne possible, puisqu'il n'y a pas de démos européen, il y a plusieurs peuples européens.
Il y a quand même un Parlement, il y a quand même
oui, mais un Parlement, mais ce Parlement, un Parlement, excusez-moi, où il y a eu pour la moitié des cas d'abstention, je ne sais pas s'il est vraiment représentatif. Ensuite, la Cour constitutionnelle allemande elle-même a reconnu un problème de représentativité quand Malte pèse plus que d'autres États membres, afin que chaque État membre ait sa représentation au Parlement européen. Ensuite, pour moi, je pense que si on voulait vraiment réorienter la construction européenne, le seul organe démocratique légitime pour le faire, ce sont les différents parlements nationaux. C'est eux qui devraient avoir la primauté à la décision. J'entendais mon homologue parler justement de l'Assemblée de la zone euro. Je suppose qu'il fait référence au projet de Thomas Piketty. Si je
Il y en a plusieurs qui sont...
Mais bon...
Essayons de bien expliquer, quand on parle sur ce point précis, quand on parle de gouvernement démocratique de la zone euro, c'est l'idée qu'en fait, les décisions soient prises par un organe élu, en fait. Les décisions monétaires soient prises par un organe élu, c'est bien ça ?
Oui, de ça, mais quand je faisais référence à ça, je pensais au projet de Thomas Piketty qui me semble intéressant sur ce point-là, que c'est des délégations des parlements nationaux. C'est-à-dire le seul organe démocratique légitime qui m'apparaît pour l'ensemble des peuples de l'Union européenne, ce sont leurs parlements nationaux. C'est eux qui devraient avoir le dernier mot plutôt que le Parlement européen, qui ne m'apparaît en fait n'avoir le nom de Parlement que pour des raisons, on va dire, de marketing, mais qui au final est tout à fait inapte à gérer une démocratie, si tant est qu'elle soit possible au niveau européen.
Théouverdi n'est pas exactement d'accord, j'ai l'impression.
Alors, deux choses. Sur le Brexit et sur l'idée de peuple, ma génération, la nôtre, mais je crois qu'on ne partage pas la même finalement, c'est celle qui a voté contre la sortie du Royaume-Uni. C'est celle qui est allée à Calais pour aider les réfugiés. C'est celle qui a fui l'Ukraine de l'Est pour rejoindre l'Union européenne. C'est celle qui s'est mobilisée en Italie et en Grèce, là encore, pour aider les réfugiés. Donc ma génération, elle est profondément européenne. Et je suis sûr qu'on a une génération Europe. Donc le Brexit, pour moi, c'est un hold-up du passé contre le futur.
C'est l'idée ouverte, vous en êtes quand même, et on le voit régulièrement dans les sondages, même chez les jeunes aujourd'hui en France, beaucoup de gens disent l'Union Européenne, c'est loin de nous, ça sert à rien, c'est un gros machin.
On ne lit pas les mêmes déjà. Moi je peux citer une étude par exemple du CREDOC, donc qui est un centre d'études sur l'observation des comportements politiques, donc qui citait que 75% des jeunes, en tout cas les moins de 30 ans, sont favorables aux poursuites du projet européen. 19% étaient même favorables à l'idée de créer des États-Unis d'Europe. Moi, je n'aime pas le terme, mais par contre, je pense que le chiffre parle pour lui-même. On a une génération Europe qui a soif de plus d'union. Et par contre, effectivement, on a aussi derrière des gens qui se sentent déçus de la mondialisation qui sont déçus du projet européen. Et ces gens-là, effectivement, c'est parce qu'on ne leur a pas proposé un projet démocratique total. Donc le marketing politique, je ne sais pas ce que c'est, mais le Parlement européen, c'est l'instance démocratique qui peut représenter les citoyens. Et effectivement, il y a un projet qui pourrait être de faire en sorte d'avoir un Sénat de l'Union européenne qui serait représenté par des délégations des parlements nationaux. C'est quelque chose qui est possible dans le mix démocratique. Mais le Parlement européen, c'est l'instance par laquelle on arrivera à réformer l'Union.
Jennifer Richard, vous voulez réagir par rapport à ça?
Oui,
un problème de représentativité.
Sur la question du Parlement européen, j'arrive pas à comprendre comment on peut le considérer comme n'étant pas légitime. Vous parlez du coup d'un argument comme quoi il y a une participation qui est faible aux élections européennes. Alors certes, oui, mais c'est aussi le cas pour les élections législatives, notamment en France, il n'y a quand même pas non plus une participation à 80%. Donc je ne vois pas la question de participation, je ne vois pas quelle est la valeur de cet argument. Enfin, les députés européens sont élus au suffrage universel direct tous les 5 ans. Pour moi, c'est totalement une démocratie représentative. Après, on peut parler de démocratie représentative et de démocratie participative. On peut estimer qu'au niveau européen, effectivement, il y a un manque de démocratie participative. Il me semble que c'est quand même le cas au niveau français aussi. Donc voilà, c'est ça pour moi.
Et juste avant de peut-être laisser Kevin Versin répondre, vous pensez que vous aussi que les jeunes sont profondément européens, qu'il y a vraiment un désir d'Europe chez les jeunes aujourd'hui?
Je pense qu'il y a un désir d'Europe, mais pas de l'Europe actuelle. En fait, on peut être européen sans être européa. C'est l'expression que souvent les eurosceptiques utilisent pour parler des europhiles. Mais on peut être europhile et être tout à fait lucide sur la situation de l'Union européenne actuellement et d'avoir des choses à vouloir modifier. Enfin, on peut modifier des choses et on a envie de plus de démocratie. Et je pense que les jeunes européens ont envie de plus de démocratie au niveau européen. Mais c'est comme pour le Brexit. La majorité des jeunes ont plutôt voté contre le Brexit. Donc ça montre.
À l'instant, les Michel de Toul Froid sur Radio Campus Paris.
Win the yes needs no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Vous êtes sur la place publique de Radio Campus Paris. On parle d'Europe ce soir avec Jennifer Richard, chroniqueuse Agropolis, Théo Verdier, vice-président des Jeunes Européens, et Kevin Versin, le président de la critique de la raison européenne à Sciences Po. Et Kevin Versin, simplement juste avant la pause musicale, on vous avait interpellé par rapport à la gouvernance démocratique de l'Union européenne. En quelques mots, pour vous, l'Union européenne n'est pas démocratique aujourd'hui?
Non, elle n'est pas démocratique. Bon, outre l'impossibilité, on va dire, philosophique du fait qu'il n'y a pas de peuple européen, mais bon, passons sur ce sujet-là.
On y reviendra
plus tard. Mais pour vous répondre plus précisément, quand j'évoquais le problème de représentativité, bon, il y a le problème d'abstention, mais j'entends votre objection qui est tout à fait pertinente. Sur la question de la représentativité, c'est simplement le fait de dire qu'il me paraît illégitime pour un ensemble qui représente des citoyens que, par exemple, Malte et un poids significatif plus important que par exemple la Catalogne qui pèse 16 millions d'habitants dans l'Union européenne. Ça, c'est un argument qui a été soulevé par la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe pour dire justement que le Parlement européen n'avait pas de légitimité démocratique à cause de cela. Ensuite, même dans la pratique, vous savez que le Parlement européen n'a pas d'initiative législative. Pour un Parlement, c'est un réel problème. Je pense que nous pouvons en convenir.
Sur ce point, oui.
Ensuite, un autre problème est la façon dont les décisions sont prises concrètement au niveau européen. Vous savez qu'il y a une procédure qu'on appelle la procédure de trilogue, qui réunit un membre du Parlement, du Conseil de l'Union européenne, de la Commission, et qui fait qu'en général, le texte est approuvé par 3 personnes et ensuite transmis aux différents groupes qui l'approuvent en fonction de consignes. Donc, les termes de débat démocratique me paraissent, dans la pratique concrète, difficilement garantie au niveau du Parlement européen.
Mais ils sont améliorables, quand même, rassurez-moi, Kevin Versa. On peut les améliorer pour vous. C'est une question d'institutionnel, de méthode.
On peut toujours proposer des améliorations. Mais bon,
dans l'état actuel, vous n'êtes pas totalement convaincu.
On peut s'enfuir. Non. Voilà, je ne suis pas convaincu du tout pour l'ordre actuel. Et en tout cas, à mon avis, comme je vous le disais, le seul organes légitimes, ce sont les parlements nationaux, c'est eux qui devraient être associés davantage dans la construction européenne pour garantir cette démocratie.
D'accord, on comprend bien effectivement la différence de point de vue que vous avez avec Jennifer Richard. Alors j'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, qu'on parle un petit peu de l'Europe au concret, de vos engagements quotidiens, puisque vous êtes tous les trois engagés à différents niveaux sur des sujets européens.
Alors, ça fait quelques semaines qu'on a observé à Paris et dans plusieurs grandes villes européennes qu'il y a des manifestations qui ont lieu tous les dimanches et ça s'appelle Pulse of Europe. Je voulais savoir si vous participez à ce genre de manifestations qui réunissent les citoyens autour du projet européen, qui veulent le défendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos?
Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Jennifer Richard.
Alors, je connais ce phénomène que je trouve très 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 bien, mais je ne peux pas y participer parce que malheureusement, ça tombe le dimanche et le dimanche, je bosse. Donc, je ne peux pas y aller, mais le cœur y est en tout cas parce que je trouve que c'est une initiative vraiment, vraiment intéressante et nécessaire aujourd'hui.
En quoi est-ce qu'elle consiste en deux mots peut-être pour
contextualiser? Si je ne dis pas de bêtises, c'est des personnes qui sont favorables à la construction européenne. Alors, je pense qu'il y a aussi, ils ont des critiques sur sa forme actuelle, mais c'est l'idée européenne, l'idée de construction européenne, l'idée d'une union est défendue à l'occasion de ces manifestations.
Mmh. Alors vous-même, corrigez-moi si je fais une erreur, hein, mais donc vous êtes chroniqueuse pour Acropolis. En quelques mots, donc c'est une revue plutôt philosophique.
Pas du tout. Acropolis.
Voilà.
Alors Acropolis, c'est un média qui est issu de la Civic Tech. La Civic Tech, c'est un mouvement qui veut mettre la démocratie et le numérique ensemble. C'est du combiné. Et en fait, Acropolis commente sur YouTube et sur Twitch, donc des plateformes de vidéos, font des émissions en direct où on commente le débat politique. Donc on peut commenter le Parlement européen, ce que je fais. On commente les questions d'actualité au gouvernement et en ce moment on commente les meetings à l'occasion de la présidentielle. Donc pour ça qu'on a beaucoup de temps d'émission.
Et pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est un peu pour qu'on parle de l'Europe, qu'on parle des débats au niveau européen?
C'est pour qu'on parle d'Europe effectivement parce qu'à mon sens les médias n'en parlent pas assez. En tout cas, il y a un manque de pédagogie énorme au niveau de ce que c'est l'Europe, de ce que c'est l'Union européenne, de comment ça fonctionne, etc. Les gens ne le savent pas forcément, parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, les cours sur comment ça marche l'Union européenne, j'en avais pas. Et donc, j'ai voulu faire de la pédagogie sur l'Union européenne, montrer comment ça marche. Donc, je commente les débats au Parlement européen. Pour montrer aux gens qui regardent, du coup, comment ça marche, on leur donne des petites clés de compréhension.
Mmh. Alors Théo Verdier, vous êtes vice-président donc des Jeunes Européens. C'est une organisation qui veut rassembler les jeunes. Alors je cite, hein, qui veut rassembler les jeunes désireux d'agir en faveur de la construction européenne. L'idée concrètement, c'est quoi? C'est de prendre un petit peu tous les jeunes de bonne volonté et puis de voir ce qu'on peut faire ensemble.
Alors les Jeunes Européens, c'est 30 000 jeunes en Europe, 1 000 en France. Et ce sont des gens qui se sont dit un jour, ok, il y a des formations politiques pour à peu près tout et n'importe quoi en France, mais il n'y a personne qui défend l'Europe d'une manière militante. Donc c'est d'abord un engagement politique, c'est de dire qu'on veut l'aboutissement d'une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe qui soit intégralement démocratique et qui puisse, soit capable de se réformer. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi un volet civique, c'est faire de l'information sur l'Europe, et c'est par exemple aller voir plus de 10 000 jeunes par an dans les écoles, dans les CFA, dans les maisons de jeunes et de la culture dans les quartiers, et leur dire c'est quoi l'Europe pour vous. Souvent, c'est la Champions League, l'UEFA ou l'Euro de football.
Ce qui n'est pas totalement faux dans un sens.
Et on dit oui, t'as parfaitement raison, mais c'est aussi les pères fondateurs, les valeurs démocratiques de l'Union, et on remonte le fil avec eux et on voit ce qu'est la citoyenneté européenne. L'idée, c'est de faire prendre conscience à notre génération de sa citoyenneté européenne, de ses droits et moralement de ses devoirs.
Et ils vous disent quoi, du coup, ces jeunes, que quand vous avez l'occasion de les rencontrer, ces jeunes qui sont un peu partout, vous dites, ils vous parlent d'abord de football avant de vous parler d'Union européenne. Ils sont un peu conscients de ce que c'est aujourd'hui, l'Union.
Ça tient évidemment à l'orage, la notion du football, c'est pour faire rire, mais il y a toujours la notion de paix et toujours la notion d'union entre peuple et État. Donc ça, c'est ce qu'ils ont actuellement, mais il y a aussi une notion politique qui est très forte. Donc il y a une incompréhension de comment fonctionne l'Union européenne, et ça, je salue le travail de Jennifer sur la pédagogie qu'on peut en faire, mais il y a aussi une véritable volonté de dire « Ok, je veux découvrir, je veux comprendre », et c'est pour ça qu'on nous appelle tous les jours pour aller faire des interventions, parce qu'il y a une volonté de comprendre quel est le projet européen, parce que là encore, je le répète, on a une génération de gens qui ont soif d'Europe.
Théo Verdier, avec votre organisation, vous défendez aussi, ça m'a marqué en préparant cette émission, vous défendez aussi une Europe fédérale.
Yes.
Pourquoi ça, tout simplement? C'est pas un peu une idée utopiste de vouloir une Europe fédérale aujourd'hui?
On aurait pu dire que le traité de Rome était aussi une idée utopiste, et la CECA, quelques années après la guerre, était aussi une année utopiste. Donc déjà, balayons le mot de la table, il n'y a pas d'utopie, il n'y a que des idéaux en politique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'idée d'une Europe fédérale. La question, c'est qu'est-ce qui différencie un jeune Bulgare, un jeune Slovaque, un jeune Suédois de moi? On partage un espace de déplacement dans l'Union, on partage un espace économique et on partage un bout d'espace politique. Ce qu'on ne partage pas, c'est souvent un espace public, un espace culturel, un espace d'éducation. Donc en réalité, c'est l'idée de poursuivre le projet du traité de Rome et de faire tomber les barrières en Europe et d'avoir un espace politique intégral qu'on puisse partager ensemble pour ensemble que la jeunesse de ce continent puisse façonner l'Union de demain.
Et puis alors, Kevin Versin, je me tourne vers vous. Donc vous êtes le président de la critique de la raison européenne à Sciences Po. Vous essayez de faire vivre un débat transpartisan sur les questions qui ont trait à l'Union européenne. Concrètement, c'est quoi? C'est un peu, vous vous réunissez pour essayer de faire émerger de nouvelles idées?
Typiquement, nos principaux types d'événements, ce sont des conférences. On invite des personnalités politiques. Par exemple, nous avons déjà reçu Paul Magnette au mois de janvier, Jean-Pierre Chevènement, Marie-France Garot, des gens qui ont eu des positions critiques. Enfin, Paul Magnette est un Européen convaincu, mais extrêmement critique de ce qui s'est passé avec le CETA. Jean-Pierre Chevènement et Marie-France Garot, bon, je n'y reviens pas, on connaît leurs positions. Et l'idée, c'était de faire venir des gens qui ont des positions politiques diverses, pour qu'ils exposent leur vision de la construction européenne, les critiques qu'ils lui font, et faire vivre du coup effectivement le débat dans une institution. L'association est née à Sciences Po, qui initialement était farouchement eurobéate, pour reprendre l'expression qui a été employée tout à l'heure.
Alors vous précisez bien que c'est des étudiants, ceux qui composent votre association, c'est des étudiants de gauche et de droite.
Tout à fait.
Donc vraiment complètement transpartisan. Mais vous dites que l'Union européenne doit être réformée en profondeur. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui malgré tout vous relie en partie. C'est pas un petit peu populiste? Alors même question pour Théo Verdier, hein, ou idéaliste, de dire qu'il faut tout réformer au niveau de l'Union européenne?
Non, je pense pas. À la limite, je donnerai un point à mon homologue de tout à l'heure, c'est que je pense que, effectivement...
Ça va lui faire plaisir.
Ça va lui faire plaisir, mais... Enfin, j'espère. Quand il parle de génération européenne, oui, effectivement, on est tous européens. Moi, je me sens... C'est pas parce que je critique l'Union européenne que je suis résolument hostile à toute idée d'union entre les peuples européens. Simplement, j'estime que la construction actuelle est foncièrement mauvaise et qu'il faut la refaire. Alors après, je suppose que vous me poserez la question de l'Europe fédérale. Je ne suis pas...
Non, ça va.
Pardon ?
Alors, on reposera la question de l'Union fédérale un peu plus loin, si vous voulez bien, Leslie.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas un combat de tous les jours de défendre l'idée européenne si, en plus, vous pensez qu'il faudrait la réformer en profondeur? Comment ça se passe pour en parler concrètement, pour en parler à des citoyens dans la rue? Comment vous abordez le sujet au premier abord?
Il y a, en France et en Europe, pour moi... une majorité silencieuse de gens qui sont profondément pour la poursuite du projet européen. ces gens-là, par contre...
Il y a aussi une majorité qui est profondément contre.
Je ne suis véritablement pas sûr, parce que comment ça se passe? On a eu un débat présidentiel là, très récemment. On a beaucoup parlé d'Europe, donc déjà c'est très positif. Donc moi je suis sûr que l'Europe, elle passionne quand on la met à l'agenda politique et quand on la met à l'agenda médiatique. Et on a des gens qui effectivement se disent « cette Europe-là, je n'en veux plus » et qui veulent la faire évoluer. Et donc on a des gens qui choisissent le départ, j'ai envie de dire la fuite, ou d'autres qui se disent qu'ok, il faut pouvoir la réformer en profondeur, mais moi quand j'en parle à des citoyens dans la rue, c'est d'abord « c'est bien ce que vous faites ».
Something when you get nothing, serpents all for sell. Some are dumb, some know no better. Some believe there is no Lord. The serpent uses his knowledge to help him wash away more of the shore. Serpent knows once shores are gone, there's nothing left but ocean and sea. A few persons trying to save the shore, some of those persons are AD. Saving the shore means saving the faith that there is a mighty someone. Someone much more mighty than the serpent. In fact, there's someone that created everyone. Up the ocean without a paddle is the fabric of God, the righteous clothing. And we wear non-righteous clothes of the serpent. Naively so, we keep on sowing. The ocean's owned by the serpent. 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 We can stop being washed away. 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 Why we let them wash it away? Why we allow them to take what's good?
Vous écoutiez à l'instant, le micro se rallume donc je reprends la parole. Arrested Development de Washed Away.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Bienvenue à tous sur la place publique de Radio Campus Paris. On parle d'Europe ce soir et d'Europe dans les présidentielles. Et tout de suite, Leslie, qui est toujours avec nous au studio, nous parle un petit peu de l'Europe au niveau local, au niveau du citoyen. Parce que concrètement, où est-ce qu'on en parle? Où est-ce qu'un citoyen parisien, par exemple, peut en savoir plus sur l'Europe, Leslie?
Eh bien, en fait, il y a pas mal de choses organisées à Paris sur des thèmes européens. Il suffit de chercher un peu ou de s'intégrer sur les bons réseaux. Donc, par exemple, moi, je suis allée sur le terrain pour vous cette semaine, ce mercredi. Ce sont les représentants des jeunes européens professionnels Île-de-France qui ont organisé une conférence sur les relations entre l'Union européenne et la Russie. Donc, ça s'appelle un Eurotalk. C'est une conférence durant laquelle sont invités de grands spécialistes universitaires pour parler d'un sujet très pointu. Donc, c'était organisé par les jeunes européens professionnels Île-de-France. Je viens de le dire.
Magique.
Et on écoute de quoi il s'agit.
Nous avons organisé une conférence que nous appelons Eurotalk sur l'actualité de la relation entre l'Union européenne et la Russie dans ses différentes composantes économiques, diplomatie, politique, géopolitique aussi. C'est un sujet qui a été abordé ce soir au cours de la conférence. Et l'idée, c'était vraiment d'être pédagogique et de remettre dans le temps long et aussi de remettre dans le point de vue transversal l'actualité assez riche qu'il y a eu ces derniers temps entre l'Union européenne et la Russie.
Voilà, donc on a beaucoup parlé géopolitique et économie internationale, mais moi je me suis rapprochée des intervenants pour leur poser une question sur les citoyens dans cette histoire avec la Russie.
Alors, ma première question, ce serait comment les relations entre l'Union européenne et la Russie influent sur la vie locale des citoyens européens et russes, de façon concrète.
Pas de réponse.
Bonne chance, lui dit son collègue. Donc ça D'accord. faisait deux heures qu'on parlait dans le détail des relations entre l'Union européenne et la Russie. Mais quand on parle des citoyens, tu sais, ces gens qui ont le droit de vote, qui sont censés aller voter aux européennes,
oui, bien sûr.
Et ben, on a beaucoup de mal à en parler, j'avais l'impression. Donc j'ai quand même eu des réponses.
Le Parisien aura pu observer l'arrivée d'une église russe ces derniers mois qui a beaucoup fait parler d'elle. Parce qu'elle se situe à deux pas... à tout près de la Tour Eiffel. Quels étaient les enjeux qui étaient sous-tendus par cette cathédrale ? C'est tout simplement l'idée selon laquelle il y a une présence orthodoxe, une sorte de leadership russe, y compris dans des États européens anciennement inscrits, et à côté de ce qu'il y a à Nice, à côté de ce qu'il y a à Paris, on a une présence spirituelle, puisque c'est une notion à la fois spirituelle et religieuse, en fait, dans l'orthodoxie telle qu'elle est défendue par le pouvoir russe. Donc on a aujourd'hui une institution visible à Paris.
Voilà. Donc je ne sais pas vous, mais moi je l'ai perdu. Comme quoi, quand tu es journaliste et tu te rends compte que sur le terrain, tu peux tomber sur complètement autre chose que ce que tu avais pu imaginer. Donc c'était mon cas mercredi soir, jusqu'à ce qu'on finisse par me parler de ça.
Indépendamment de Paris ou de Nice, il y a aussi la Première Guerre mondiale. Donc je pense au contingent russe de 1916-1917 qui est venu et qui est enterré pas très loin de Daumont, dans le nord de la France. C'est aussi un symbole. Voilà, donc il y a dans les territoires, il y a aussi des symboles forts du sang russe coulé en France.
Ah non, ça, je m'y attendais pas non plus. Mais en fait, tout ça, c'est pas faux. Hein. Et si ça se trouve, c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque. Et puis finalement, ça s'est décanté. On a parlé des médias.
Maintenant, si on parle des médias, il faut dire que le citoyen doit se faire son opinion. Parce que finalement, il doit lire des livres, il doit s'éduquer. Et après, il doit lire son opinion. La question, c'est est-ce qu'il peut faire confiance aujourd'hui uniquement au jugement de la presse ? C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Bah oui. Mais dans tout ça, moi, je ne sais toujours pas comment les citoyens européens et russes, d'ailleurs, sont impactés par les relations entre l'Union européenne et la Russie dans leur quotidien, au niveau local, donc dans leur vie. Ce qui importe, en fait, pour un individu, c'est ce qu'il touche vraiment. Enfin, c'est ce que je pensais. Et là, mon troisième interlocuteur, qui, j'ai appris par ailleurs, fait partie de l'équipe de la célèbre émission de Radio Campus Paris-Chablis Hebdo,
qui nous a laissé dessus il y a un instant. On les salue.
M'a parlé de citoyens, notamment des agriculteurs français touchés par les sanctions économiques contre la Russie. Donc là, on est vraiment dans du concret et il m'a même parlé des citoyens russes. On écoute.
Pour les citoyens russes, ça a eu des conséquences assez importantes puisqu'ils ne pouvaient plus manger de produits européens et notamment les fromages français n'étaient plus disponibles dans les rayons de supermarchés. Et donc, il y a eu cette production nationale qui s'est développée et ça commence à changer un peu les habitudes alimentaires des Russes qui se détournent un petit peu des produits fabriqués en Europe pour de plus en plus consommer des produits fabriqués en Russie et qui, a priori, voilà, changent un peu ses habitudes alimentaires et changent quelque part les goûts des citoyens.
Donc est-ce que ces sanctions, finalement, elles sont vraiment utiles par rapport à ce qu'on voulait provoquer au départ ?
Qu'est-ce qu'on voulait provoquer au départ ? C'est ça le problème. Ça dépend de l'objectif qu'avaient ces sanctions. Si l'objectif était de punir la Russie ou du moins d'afficher son désaccord politique, elles sont efficaces. Si c'était pour orienter ou faire en sorte que la Russie change sa politique, elles ont été plutôt inefficaces.
Voilà, donc surtout la morale de l'histoire, toujours insister pour avoir des réponses et pour qu'on parle humain. C'est ce que je trouve souvent dommage dans ce genre de conférences et dans la sphère institutionnelle européenne. C'est qu'on parle beaucoup des représentants politiques et de nos institutions, mais on parle beaucoup donc géopolitique et économie, mais rarement de l'humain. Mmh. Donc, pour finir mon intervention sur un dernier exemple d'événement qui peut vous informer sur l'Europe à Paris, j'ai demandé au vice-président de la section de nous expliquer ce qu'est un afterwork européen.
Le 20 avril, les jeunes européens professionnels organisent leur prochain afterwork. C'est un afterwork que nous tenons traditionnellement environ une fois par mois. Et il sert à présenter des membres de l'association, leur réseau, leur métier, leurs liens éventuels avec l'Europe dans leur quotidien. Et nous essayons d'agrandir ce réseau en invitant des autres associations de jeunes professionnels. La prochaine fois, nous le faisons avec les membres de la NAGIHEDN, leur comité Europe de la Défense. Nous ambitionnons aussi de le faire avec les jeunes de l'énergie, les jeunes de la finance, les jeunes du maritime. Bref, pour à la fois capter, informer nos militants sur ce qui se passe au niveau des jeunes professionnels de tous les secteurs et en même temps sensibiliser ces jeunes professionnels aux thématiques et aux enjeux européens.
Donc le message est passé, vous savez tous où vous renseigner sur l'Europe au niveau local à Paris, donc à votre niveau des citoyens, et il n'y a plus qu'à...
Il n'y a plus qu'à Faucon. Merci beaucoup pour Leslie pour cette chronique un peu lunaire, comme il
un
faut
peu,
le dire,
oui.
Sur les afterworks européens.
Win the yes needs a no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Bienvenue, vous êtes toujours sur la place publique de Radio Campus Paris. On débat d'Europe ce soir en compagnie de Jennifer Richard, chroniqueuse pour Acropolis, Théo Verdier, vice-président des Jeunes Européens, et Kevin Versin, président de la critique de la raison européenne à Sciences Po. À l'instant dans le studio, Valentin nous a rejoint, Valentin, la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Tu allais nous parler des présidentielles françaises, parce qu'évidemment, il est aussi question d'Europe dans ces élections présidentielles.
Exactement. Alors bonsoir à tous. Lors du grand débat du 4 avril, il y avait les 11 candidats, excusez-moi. Il y a eu beaucoup de candidats eurosceptiques. Et quand on regarde tous ces candidats, je pense à Jacques Cheminade, à Asselineau, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Dominique Dupont-Aignan, quand on regarde tous ces candidats réunis, au moins eurocritiques, et ils tapent dans les 45-47%. Là encore aujourd'hui, un sondage de Odoxa a dit qu'ils étaient à 47% quand on les calcule tous. Je voulais savoir où était la dynamique entre les européistes et les européens.
Alors, qui veut répondre à ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette campagne est plutôt pro-Europe, anti-Europe ?
Ou plutôt eurosceptique ?
Kevin Versin, votre sentiment ?
Mon sentiment, c'est qu'elle est davantage eurocritique. J'aime pas trop les autres termes employés, mais en tout cas, eurocritique,
non,
oui.
On discutera sur les termes, mais bon.
Je pense qu'elle l'est, et de manière générale, je pense qu'il y aura consensus autour de cette table. Je pense que c'est plus que le bienvenu qu'on débatte enfin d'Europe dans une présidentielle française, puisqu'on ne peut faire aucune politique en France sans tenir compte du facteur européen. Donc moi, j'estime que la dynamique est en faveur des mouvements eurocritique, et je suis plus que ravi du développement que prend les débats de s'orienter enfin sur la question européenne.
Mais cela dit, c'est quand même une bonne nouvelle, malgré tout, qu'on parle enfin d'Europe. Hein, on en parlait durant la pause musicale. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on parle autant d'Europe.
Indiscutablement.
À télévision. Je me tourne vers vous, Théo Verdier. Vous pensez que cette campagne elle est plutôt pro-Europe, anti-Europe ? Un peu des deux.
Déjà, réjouissons-nous que la question européenne soit présente. Et ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est surtout qu'en fait, en 2017, si tu votes pour la France, tu décides aussi d'une vision pour l'Europe. Je crois qu'on convient qu'il faut agir pour faire évoluer l'Union européenne, et le président de la République ne changera pas l'Europe seule. Mais sa vision, elle sera déterminante. Donc le choix que vous faites ici, ce n'est pas un choix national. C'est un choix qui est continental. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est... Il y a une dominante, effectivement, eurocritique, mais moi, je ne dirais pas que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est contre le projet européen.
J'ai pas dit qu'il était contre eurocritique. Ou eurosceptique, ouais, il peut être
bien,
à peu près.
On peut critiquer le fonctionnement actuel de l'Union européenne. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un seul candidat, vu que c'est quand même un fonds de commerce, qui ne le dit pas.
Et moi, aucun d'entre vous, par ailleurs. Hein. Vous dites tous qu'il y a des choses à améliorer dans cette Union européenne.
Et moi, j'admire une partie du placement de Jean-Luc Mélenchon, et j'admire l'idée d'universalisme aussi qu'on peut retrouver chez lui. Donc voilà, moi je pense qu'il y a plus de nuances dans ce débat que simplement eurocritique ou europositif, ça ne veut rien dire. Par contre, et je n'ai aucunement, enfin je veux dire, c'est pas à moi de juger la teneur des débats, par contre ce que je veux dire c'est aux gens qui nous écoutent, si vous votez en 2017 juste pour un projet national, vous vous gourrez, parce que c'est l'enjeu européen qui doit primer, parce que c'est l'enjeu des 5 ans à venir, ou moi, même des 2 ans à venir, jusqu'aux européennes de 2019.
Jennifer Richard, vous, elle vous inspire quoi cette campagne ?
Je trouve que tous les candidats, en fait, sont eurocritiques. Il n'y en a pas un seul qui propose de rester comme on est actuellement. Il y a
aucun qui trouve grâce à vos yeux ?
C'est pas une question de trouver grâce ou pas à mes yeux. J'estime juste que tous les candidats ont quelque chose à redire sur l'Union européenne. Après, il y en a qui sont peut-être plus proches de ma pensée personnelle, mais je ne vais pas l'étaler là, ce n'est pas non plus l'objectif. Mais tous les candidats apportent une critique à l'Union européenne et veulent apporter leur petite patte sur cette construction européenne et la modifier dans un sens ou dans un autre. Il y en a qui sont plutôt vers un fédéralisme, d'autres qui sont vers une Europe des nations et d'autres qui veulent vraiment quitter l'Union. Voilà.
Donc finalement, on est plutôt eurocritique pour vous.
Alors la plupart des candidats, on en avait parlé avec vous, Théo Verdier, la plupart des candidats, 10 sur 11, ont au moins voté tout le genre lors du traité de Maastricht ou le traité de l'Union européenne, ont voté non. Ou soit l'un pour l'un, soit pour les deux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette génération politique, ou du moins sur leur vision européenne ?
Alors, on peut avoir voté non en 2005, en 92, ça me paraît plus compliqué, et être engagé en faveur de la construction européenne. Je veux dire, il y avait des choses dans le débat politique en 2005, qui, d'ailleurs, ça fait 11 ans, 12 ans maintenant, qui méritaient d'être discutées. Et moi, je n'ai aucun souci avec ces gens-là. Par contre, effectivement, ce sont 10 sur 11 personnes qui ont voté non à la dernière étape qu'on a proposée sur une logique de référendum d'avancer pour l'Union européenne. Et ce qui est marrant, c'est que ces gens-là proposent tous un référendum qui concerne l'Union européenne, ou en tout cas une grande partie. Et donc moi, je trouve que le parallèle historique est assez marrant.
Que finalement, ceux qui ont hier refusé le référendum, aujourd'hui le proposent, c'est ça que vous dites ? Finalement, tout le monde se convertit un peu au final.
Tout le monde se convertit à la démocratie européenne. Mais du coup, pour faire exactement l'inverse, c'est-à-dire au lieu de faire progresser l'Europe, la quitter, la détruire, choisir le choix de la lâcheté et de partir face aux problèmes qui sont face à nous.
Kevin Versin, vous, alors je ne vais pas vous demander de consigne de vote, mais est-ce qu'il y a certaines choses que vous entendez dans ce débat ? Vous disiez le fait qu'on soit un peu enfin critique de l'Europe, qu'on en débatte un petit peu, mais est-ce qu'il y a certains des candidats qui vraiment vous énervent ? Vous vous dites là quand même, on ne devrait pas en parler comme ça de l'Union européenne.
Oui, il y en a un que je trouve absurde parce qu'il a une espèce d'esprit étroit juridique, c'est François Asselineau. S'il ne peut pas caser l'article 50 une fois par phrase, il va mal. Et au final, il ne voit aucun mérite puisque lui, pour le coup, est opposé à toute idée européenne, quelle qu'elle soit. Donc lui, oui, effectivement, lui, je trouve d'une part qu'il a un esprit juridique absolument étroit qui ferme toute possibilité de discussion.
Article 50, article 50, article, voilà, article 50, et on l'a vu lors du débat.
Et ensuite, lui, pour le coup, n'a vraiment aucune vision européenne. C'est même pas on sort pour construire autre chose ou on modifie l'Union européenne. Lui, c'est rien, c'est le néant. Donc lui, effectivement, je ne me retrouve absolument pas dans ce candidat-là. Après, les autres présentent différentes nuances de scepticisme, de critisme, etc. Mais au moins, il y a une vision européenne qui est derrière. Et je pense qu'on ne peut pas se passer une vision européenne. Ce qui ne veut pas dire pour autant signer un blanc-seing pour l'Union.
J'aimerais vous demander un petit peu à tous les trois, on parle de changer les choses au niveau européen, on parle des candidats à l'élection présidentielle. Quels sont pour vous les futurs chantiers que l'Union européenne devrait traiter prioritairement, que le futur président ou présidente de la République devrait traiter prioritairement au niveau européen ? Je ne sais pas qui souhaite prendre la... Théo Verdier peut-être ?
Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, dans la déclaration des 60 ans du traité de Rome, et avant à Bratislava, lors du sommet qui a suivi la sortie du Royaume-Uni, trois chantiers avaient été ciblés : la jeunesse, la sécurité, la défense.
Les investissements.
Et les investissements, mais qui est dans une logique défense.
D'accord, on se complète.
C'est ça. Et ces trois chantiers, moi je suis pour une fois absolument d'accord avec le Conseil européen, ils sont prioritaires. Par contre, il y a une sorte de. Comme on est dans une année 2017 où on a deux candidats, on a deux chefs d'État. En Europe, qui sont Angela Merkel et François Hollande, qui sont sur une fin de mandat, on a incapacité de construire des projets à long terme avec ce Conseil européen-là. Donc moi, je suis d'accord avec ces priorités-là. Il nous faut une diplomatie et une défense commune en Europe pour que l'Europe soit capable de protéger ses citoyens et qu'elle pèse au niveau géopolitique. Il nous faut une sécurité commune et une sécurité qui soit humaine, c'est-à-dire renforcer le corps de garde frontière européen, mais aussi avoir une politique d'asile commune. Et enfin, sur la jeunesse... En gros, la Commission a tiré les premiers à la Commission européenne en créant le Corps européen de solidarité, qui est l'idée que ma génération puisse se mobiliser avec une aide des institutions sur des théâtres humanitaires, sur des théâtres d'action sociale. Sauf qu'ils ont encore une fois fait les choses à moitié, parce qu'il n'y aura que 100 000 bénévoles, je crois, d'ici à 2020. 100 000 bénévoles sur une génération européenne, je crois qu'en France, une génération de bacheliers, c'est 900 000 personnes.
Effectivement.
Donc, l'idée est incroyable, et le mec qui a eu cette idée à la Commission, il faut lui dire bravo, c'était génial. Par contre, il faut derrière pouvoir se sortir et pouvoir se donner les moyens de rêver et de faire en sorte qu'on ait une mobilité internationale universelle, qu'elle soit pour s'engager, pour travailler ou pour étudier.
Et vous dites ça en tapant du poing
sur la table. En tapant du poing sur la table, mon garçon.
Pour insister sur ces priorités. Jennifer Richard, pour vous, ce serait quoi les priorités au niveau européen aujourd'hui ?
Je pense que les priorités qui ont été choisies par le Conseil européen sont bonnes, comme le disait Théo à l'instant. La question environnementale est aussi, selon moi, une priorité. Surtout à ce qui se passe actuellement avec un Trump qui est assez climato-sceptique, comme on dit. Donc la question environnementale pardon, est super importante et il y a évidemment de trouver enfin une solution à la crise des réfugiés ou crise des migrants, ça dépend quel nom vous voulez lui donner. Mais il n'y a toujours pas de solution viable. Et là, il faudrait vraiment qu'il se bouge, quoi.
Kevin Versin, la question des réfugiés, alors, libre à vous d'élargir, hein, mais sur cette question-là, pour vous, l'Union européenne, elle devrait davantage pouvoir parler d'une seule voix. C'est quelque chose qui devrait être traité prioritairement.
Oui, en tout cas, dans la question de l'accueil des réfugiés, on ne peut plus se permettre d'avoir des gouvernements qui prennent une initiative unilatérale sur la question. Et donc je pense que oui, quel que soit le cadre européen qu'on garde, il s'impose que les différents gouvernements nationaux se coordonnent davantage pour parler d'une seule voix et pour accueillir les réfugiés de manière digne et humaine comme ils ont le droit en tant que personnes.
Et alors de façon plus large, pour vous les priorités ?
Bon alors, je vais sans doute trahir en partie certaines de mes opinions en disant que par exemple, l'initiative de l'Europe de la Défense, je suis résolument contre. Je pense que dans le contexte international actuel, c'est irresponsable, ça va engendrer simplement une montée des tensions sur le continent. Donc j'y suis farouchement opposé. Après, je suis d'accord sur l'écologie, c'est une priorité. Du coup, le futur président de la République, quel qu'il soit, devra mettre cette question sur l'agenda européen. Et ensuite, je ne la dissocierai pas non plus de la question sociale. Il est temps qu'on mette en place une véritable harmonisation des politiques sociales au niveau européen pour faire progresser le niveau de vie de tous les peuples du continent.
Et je rajoute l'évasion fiscale aussi.
Bah. Et je suis tout à fait d'accord.
Ah bah, magnifique, nos invités. 20h52, nos invités tombent d'accord vraiment sur un point.
Alors moi, c'est une question assez simple. Comment réformer Schengen ? Est-ce que l'espace Schengen doit être réformé ? Si oui, comment ?
Alors, pour répondre à cette question, il y a déjà, en février dernier, le Parlement européen a voté pour le renforcement de l'espace Schengen et notamment, en fait, le contrôle aux frontières extérieures. Donc, le Parlement européen a décidé, en gros, que maintenant, il y aura des contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'Union et notamment, ces contrôles concerneront également des citoyens européens qui re-rentrent dans le territoire, donc dans l'espace Schengen. Donc déjà, ça, c'est un bon point. C'est une amélioration de l'espace Schengen. Il faut améliorer, effectivement, les contrôles aux frontières extérieures. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser, à mon sens.
Donc il y a déjà des choses qui ont été faites, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, c'est en cours.
Théo Verdier ?
Alors c'est même réalisé, parce que ce contrôle aux frontières, est entré en vigueur aujourd'hui même.
Ah.
Et on a une période transitoire de 6 mois avant qu'il y ait un contrôle systématique de même des citoyens qui font partie des États membres de l'État Schengen, de l'espace Schengen aux frontières extérieures. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je le disais, renforcer notre sécurité commune et investir et mettre les moyens pour arrêter de faire peser sur l'Italie et la Grèce les moyens de la protection du continent et les aider avec un véritable corps européen de garde-frontières qui pour l'instant a 1500 hommes, ce qui pour l'étendue des frontières européennes est ridicule.
Mais alors justement, Théo Verdier, est-ce que cette solution qui est mise en place aujourd'hui, est-ce qu'elle est suffisante pour vous ? Parce que quelque part, à la fois, on se donne les moyens techniques de contrôler les frontières, mais en même temps, est-ce que matériellement, on va avoir les moyens ? Est-ce que ça va suivre ?
Alors, déjà, on ne se donne pas les moyens. Ce que je disais, le corps européen de garde-frontières, il a 1500 hommes.
Donc c'est un peu contradictoire quand même ?
Non, ce que je dis, c'est que l'initiative est positive, mais que la priorité, c'est le renforcement et c'est de se donner les moyens de nos ambitions quand on veut dire assurer la sécurité du continent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur comment est-ce qu'on décide de ça. Donc on parlait tout à l'heure de comment les chefs d'État doivent ou non investir pour solutionner la crise des réfugiés. En réalité, les instances européennes, elles ont fait le taf sur la question. Le rapport européen a sorti un million de rapports pour dire qu'il fallait investir sur le sujet. Et la Commission avait dit, il y a 2 ans, a sorti un plan en 10 points pour solutionner ou en tout cas agir de manière ambitieuse sur la crise des réfugiés, sur la sécurité des frontières. Ce que vient de citer Jennifer sur le contrôle aux frontières extérieures est un des points de cette mesure-là. Mais il faut dire que soit on a fait de la demi-mesure, soit on n'a pas appliqué.
C'est
donc les institutions européennes
suivi,
ont fait le taf, mais c'est derrière les portes closes du Conseil européen que les fonds ne sont jamais arrivés. Et c'est pour ça qu'on doit aller faire une parlementarisation de la zone euro pour que ces débats-là soient en place publique.
Excusez-moi, mais je comprends pas bien comment renforcer le contrôle des frontières peut aider les réfugiés à arriver sur notre territoire en toute sécurité.
Il y a une double question. Voilà. Il y a une double question. Il y a une question de sécurité, il y a une question de l'accueil.
De sécurité pour qui, en fait ?
Bah, de sécurité pour les citoyens du continent qui, eux, en tout cas...
Est-ce que, justement, les réfugiés mettent vraiment en danger les citoyens européens ? C'est ça ma question.
Absolument.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faut renforcer le contrôle aux frontières ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Ou est-ce que c'est plutôt créer des voies légales d'entrée sur le territoire européen pour les réfugiés ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça ?
Alors, il faut séparer les deux enjeux. Le premier, sur les réfugiés, il faut effectivement une politique d'asile commune à toute l'Union européenne. On peut, comme je le disais, plus laisser passer... peser tout ça sur la Grèce et l'Italie, c'est la première chose, avec les valeurs humanistes qui caractérisent l'Union européenne, et sur la sécurité, qui est un double enjeu, mais qui concerne les frontières. Donc effectivement, on en parle dans la même phrase, mais je ne mets pas du tout les deux choses en lien, terrorisme et réfugiés. ça me paraît débile. Et donc là-dessus, pour la sécurité, il faut par exemple une agence de renseignement de l'Union européenne qui puisse coordonner le travail des forces de sécurité sur tout le continent. Parce que le terrorisme n'a pas de frontières, et donc ça ne sert à rien que notre police et notre justice en aient un.
Mm-hmm. Kevin Versin, peut-être quelques mots sur Schengen. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit? On a effectivement les choses, les institutions européennes ont fait le taf, comme on dit, Théo Verdier, mais c'est politiquement que ça coince aujourd'hui. Je vous vois lever les sourcils comme tout à l'heure, je sens que vous n'êtes pas tout à fait sur cette
idée. Je ne dirais pas qu'elles ont fait le taf, et bon... Il ne faut pas charger la barre des institutions européennes, je ne pense pas qu'elles ont fait le taf, mais après, effectivement, il y a un problème politique au niveau des chefs de gouvernement et d'État.
Il y a un travail qui a été fait quand même.
Le travail a été fait, largement insuffisant, à mon sens. Après, sur Schengen, bon, renforcer le contrôle des frontières, accueillir les réfugiés de manière plus humaine, c'est une chose fort bien. Mais si on veut vraiment résoudre cette crise des réfugiés, il faudra poser la question de la relation de l'Union européenne avec la rive sud de la Méditerranée, relancer les politiques régionales de voisinage de l'Union européenne, puisqu'on ne pourra pas régler cette crise si d'une part les différents États européens, que ce soit par le canal de l'Union européenne ou dans un autre canal, permettent de résoudre ces conflits, et ensuite d'aider les peuples de la région à reconstruire leur économie et leur pays. C'est la seule solution rationnelle et viable sur le long terme. Et même si je peux accorder que Schengen, ça peut être une mesure
mais
transitoire.
Comment tu fais ça sans une diplomatie commune de l'Union?
Mais pour le moment, je ne vois
pas. Bah, tu fais pas.
Non, je ne pense pas qu'on ne fait pas. Premièrement, parce que je ne suis pas sûr qu'une diplomatie commune, en tout cas dans les faits, n'est pas sur le point d'advenir. Donc, on peut renforcer la coordination entre les diplomaties nationales. Et à défaut de renforcer cette coordination, certaines diplomaties nationales qui le souhaitent, notamment celles des pays riverains, doivent prendre l'initiative et ne pas attendre forcément que les 28, bientôt 27, se mettent d'accord entre eux.
Mesdames, messieurs, il nous reste 2 minutes d'émission. J'aimerais Jennifer Richard, Théo Verdier, Kevin Versin. Peut-être juste en quelques mots, pour terminer cette émission, si vous aviez un souhait pour l'Europe, c'est typiquement l'occasion de cette présidentielle, lequel serait-il? Théo Verdier, peut-être.
Alors mon souhait, et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens prennent conscience que en avril...
Vous prenez une voix toute douce en parlant de ça.
les deux tours de l'élection présidentielle, leur choix n'est pas national et qu'en votant pour la France, ils décident pour l'Europe. Et que le président de la République qu'ils vont élire, il est à une croisée des chemins et que si lui, en 5 ans, n'est pas capable d'amener avec ses collègues une réforme de l'Union et avec les institutions de l'Union européenne, personne ne le fera jamais.
Jennifer Richard, un souhait pour l'Europe?
Un souhait pour l'Europe, bah, qu'elle continue, qu'elle perdure, mais qu'il y ait plus de démocratie dans la construction européenne, qu'on donne plus de pouvoir au Parlement européen, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, vraiment aller vers plus d'Europe et en même temps mieux d'Europe.
Kevin Versin,
je dirais
j'aurais quasiment le dernier mot.
Je dirais que dans tous les cas, quel que soit le candidat élu et quel que soit le projet européen proposé, il devra être soumis aux Français par référendum, puisqu'on ne pourra rien faire sans le consentement du peuple français acquis par la voie démocratique du référendum.
Eh bien, merci. Merci à tous les trois. Merci Jennifer Richard, Théo Verdier et Kevin Versin. Merci d'être venu débattre ce soir, parce qu'on a débattu. Et c'est très bien, c'est à ça que sert évidemment la place publique. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci évidemment à Valentin et à Leslie qui étaient aussi avec moi. Merci à Elsa qui a coordonné l'émission. Sur Radio Campus Paris, vous allez pouvoir suivre l'actualité présidentielle et donc aussi l'actualité européenne. On vous prépare des émissions par rapport durant les deux tours et puis après on poursuivra le débat sur la place publique pour suivre les politiques une fois qu'elles seront mises en place. Je vous laisse tout de suite sur Radio Campus Paris en compagnie de La Souterraine. Restez bien connectés sur la 93.9. Nous on se retrouve très vite. Bonne soirée à tous. Vive la radio et vive l'Europe.
Radio Campus.